Bonjour à tous. Merci pour votre accueil. Bonjour aussi aux Zoomers du matin. Très content d'être ici, de partager cette matinée avec vous. J'en profite aussi pour vous saluer de la part de l'église de Pierre-Latte, cette église sœur. Et puis dans quelques temps, c'est la famille Dufour qui viendra chez nous. Michael viendra prêcher. On se réjouit beaucoup pour ces échanges. Et personnellement, j'aime beaucoup, beaucoup côtoyer d'autres églises sœurs, c'est un enrichissement pour moi. Donc de partager ces moments avec moi, c'est pas juste une formule, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup pour déjà tout ce début de temps ensemble depuis tout à l'heure. Et puis une manière de résumer ce que j'aimerais partager dans ces quelques moments ensemble, ça pourrait être de cette manière-là. Résiste. Alors, malgré ce titre, je ne vais pas parler ce matin de cette chanson « Résiste » de France Gall. Certains ont des souvenirs. Mais bien de ces lettres gravées dans la pierre, que l'on peut lire encore aujourd'hui, dans la tour de Constance, de cette ville que vous connaissez peut-être, ville charmante, Aigues-Mortes, qui vaut le détour. Et ce qui s'est passé aussi dans la tour de Constance, ce qui s'est passé dans cette tour de Constance il y a quelques 500 ans vaut le détour aussi. Ces lettres gravées dans la pierre l'ont été à la force des ongles de cette sœur qui s'appelait Marie Durand et qui, pendant des années, enfermée en prison à cause de sa foi, a tenu grâce au Seigneur Jésus et elle cédait en fait avec ses autres sœurs de prison en gravant avec les ongles résister. Et la force de ses convictions l'a aidée, mais surtout elle se rappelait que même dans l'épreuve la plus extrême, Jésus-Christ est présent, Jésus-Christ reste fidèle. Résiste. Et résiste, ça pourrait être aussi le mot d'envoi de Pierre lorsqu'il termine sa première épître. Résistons. Tout au long de son épître, dans cette première épître, Pierre a encouragé les destinataires à chercher non pas à s'appuyer sur eux-mêmes, mais à continuer de croire que Dieu poursuit son œuvre de transformation, quelles que soient les circonstances. Et dans leur vie en particulier, Dieu poursuit son œuvre. C'est le cas, par exemple, dans les situations injustes, où il a invité ses destinataires à continuer de placer leur confiance en Dieu. Bien sûr, aussi, dans les situations éprouvantes, nous n'en serons pas épargnés. Et il veut nous encourager, il encourage ses destinataires et nous, par ricochet, à croire qu'il reste notre refuge. Et puis aussi dans les situations hostiles, nous sommes invités à continuer de bénir, y compris dans les situations qui sont des situations d'adversité. Autant de choses qui, bien sûr, nous deviennent possibles par son aide, par l'assistance de l'Esprit-Saint dans notre vie, lorsque nous nous connectons régulièrement de notre cœur au sien. Et Pierre a encore aidé ses lecteurs, plutôt, en les invitant non pas à se laisser livrer à eux-mêmes, à faire ce qu'ils veulent faire, mais plutôt à expérimenter une saine soumission, une soumission mutuelle, mais aussi une soumission à nos patrons, aux autorités, à nos maris, aux anciens. Alors c'est une manière de résumer la première épître de Pierre. Et avant que nous ne lisions ensemble le texte du jour, voici deux derniers trésors qui précèdent justement notre extrait. Revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Voici l'un de ses trésors. Je vais y revenir. Et puis le deuxième trésor, c'est cette invitation, cette exhortation à de se décharger sur Dieu de tous vos soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Pierre veut inciter ses destinataires à se mettre à leur juste place. Mettez-vous à une juste place, c'est-à-dire à votre place, c'est-à-dire pas à celle d'un autre, c'est-à-dire pas celle de Dieu non plus. Vous n'êtes pas Dieu, donc mettez-vous à votre place, humiliez-vous. C'est ça que ça veut dire d'une certaine manière. Et après les avoir exhortés à s'humilier, Pierre leur partage cet autre trésor qui, appliqué, peut transformer n'importe quelle nuit, n'importe quelle vie. Il s'agit de faire ce pas de foi qui s'appuie sur le fait que Dieu est digne de confiance et qu'il va prendre soin de nous. Il va prendre soin de nous, en particulier lorsque nous prenons le temps de nous décharger sur lui de tous nos soucis, de n'importe quel de nos soucis. Petite question. Est-ce que prendre le temps de nous décharger sur lui de nos soucis fait partie de notre mode de vie? J'ai besoin personnellement de me reposer la question de temps en temps. Probablement que pour vous aussi, c'est la même chose. Et je souhaite que nous puissions progresser dans ce déchargement. Vous savez, il y a des déchargements illégaux. Ça, c'est un déchargement qui est légal et qui est bon pour notre santé. La santé de notre âme, mais qui est bon pour notre santé, pour notre intériorité et même pour notre corps. De nous décharger sur lui de tous nos soucis. Alors des fois, ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore, je prends un souci comme il vient, et je me décharge sur lui. Et je dis, Seigneur, je prends au mot ta parole, ce souci-là qui me vient, là, qui m'empêche de dormir, qui m'empêche d'avancer, je te le remets. Je te fais confiance, je ne sais pas du tout ce qui va se passer après, mais ce que je sais, c'est que tu as promis que tu prends soin de moi. Et je suis tellement content que tu vas prendre soin de moi, que je te remets ce souci. Donc, Pierre vient de laisser deux trésors à ses destinataires. Et là, il va poursuivre au verset suivant. À partir du verset 8, je vais lire, et ce que je vous invite même à faire, si vous le désirez, si vous n'êtes pas gêné de ça, si vous le pouvez, de vous lever avec moi et on va lire ensemble la parole de Dieu, à voix haute. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Prenez place. Premier élément de cette exhortation, persévérez. Persévérons. On va y revenir en filigrane et je vous invite maintenant à cette deuxième partie où je vais un petit peu pointer du doigt cet adversaire, ce puissant adversaire, nous dit la Bible, qui rôde comme un lion rugissant pour dévorer. Votre adversaire, c'est au verset 8 de ce chapitre 5, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Des sondages sérieux révèlent que peu de Français croient à l'existence réelle du diable. Y compris, nous disent ces sondages parfois, parmi nos amis catholiques. Or, Dieu ne nous le cache pas, nous avons un adversaire. C'est un adversaire de taille. Et comme l'affirme l'apôtre Paul dans son sixième chapitre qu'il a écrit aux chrétiens d'Éphèse, Éphésiens 6, nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, c'est-à-dire contre les personnes, contre les gens eux-mêmes. Nous luttons, oui, nous luttons, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Nous luttons, mais non contre des personnes. Nous luttons, mais dans le monde invisible, nous devons savoir qu'il y a cet adversaire qui, avec ses sbires, les démons, agit dans le monde invisible et dans le monde visible qui est le nôtre. Cependant, pour ceux qui ne basent pas leur croyance sur les sondages populaires, mais sur la Bible, la parole de Dieu, il n'y a donc aucun doute à être sûr de l'existence de l'adversaire, et ce, depuis le début de l'histoire de l'humanité, en tout cas depuis la Genèse, très tôt, n'est-ce pas, chapitre 3, jusqu'au dernier livre, hein, jusqu'à dans l'Apocalypse, il est question, ici et là, de cet adversaire. Et ici, il est comparé à un lion rugissant, cet animal qui rugit fort. Pourquoi rugit-il ? Ben, il rugit pour intimider sa proie, déjà. Il rugit pour l'effrayer. Il essaie de nous intimider pour que nous n'estimons pas Dieu digne de confiance. Il cherche à nous paralyser pour que nous soyons stériles en œuvre dans le monde pour le royaume de Dieu. Mais le lion fait aussi office de rabatteur. La bête traquée s'enfuit, s'isole des autres animaux, du troupeau, et tombe sous la patte, comme par hasard, d'une lionne qui est embusquée un petit peu plus loin. Vous avez déjà entendu, tout comme moi, que la durée de vie d'une personne qui marche sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute est statistiquement de 15, 10 minutes. Bah, je suis resté sur 10. Il y a quelques années, on disait 15, mais j'ai entendu 10 récemment. Ça donne une petite idée en fait, de l'état dans lequel on se trouve quand on marche en tant que piéton sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute. De même, en est-il pour ceux que l'adversaire, à force de raisonnement presque convaincant, s'isole et lorsqu'ils ne sont plus au contact de l'Église, c'est-à-dire qu'ils s'isolent des autres frères et sœurs dans la foi, eh bien, il y a ce parallèle avec cette durée de vie qui est limitée. Nous, les chrétiens, on n'a pas été créés pour vivre notre foi seule, n'est-ce pas ? Il y a deux dimensions dans la foi. Il y a la foi individuelle, personnelle déjà, et la foi communautaire, tout aussi importante. Sans l'une, sans l'autre, je suis bancal. Ce n'est pas par hasard si l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira à ses lecteurs « N'abandonnez pas votre assemblée, il en va de votre survie ». Et je dis bien de votre survie. La durée de vie d'un chrétien isolé qui marche le long du fleuve de la vie n'est pas bien longue. Tellement l'adversaire est pervers et tellement nous avons besoin des autres pour nous rappeler les promesses. La fraternité, qui est un privilège pour nous. Les promesses de Dieu, nous avons besoin de nous les rappeler les uns les autres. Vivre sera foi seul, isolé, c'est du suicide spirituel. Et le diable le sait bien. Lui qui, tel un lion, c'est pas tel un gentil chat, hein, c'est un félin, mais un peu différent, tel un lion rôde pour chercher qui dévorer. Et ce sera qu'une question de temps, comme sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Donc c'est un lion rugissant, vous avez vu ? On ne l'entend pas, mais on devine. Hein. On devine. Et puis, cet adversaire, qui est comparé ici à un lion, à d'autres surnoms, n'est-ce pas ? En hébreu, le diable, c'est adversaire, mais on sait aussi qu'il est l'accusateur, ça dit beaucoup sur lui, ou encore le calomniateur. J'aime beaucoup ce verset qui dit beaucoup de choses dans Jean au chapitre 10, verset 10. Alors Jésus va dire « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance ». C'est magnifique, c'est pourquoi Jésus est venu. Et juste avant, il est dit « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire ». En fait, l'adversaire veut dérober et voler l'abondance que le bon berger veut semer dans vos vies, dans nos vies. Alors sans chercher à nous effrayer, c'est pas le but, est-ce que nous gardons à l'esprit que la vie n'est pas un long fleuve tranquille depuis que nous vivons dans un monde déchu et que de toute façon ça sera jamais le cas jusqu'au retour du Seigneur Jésus? Dans ce monde déchu, nous avons un adversaire qui sait très bien ne rien pouvoir faire contre Dieu lui-même. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse contre Dieu lui-même? Il ne lui arrive pas à la cheville. Donc que fait-il? Eh bien, il s'en prend à ce que Dieu a de plus cher, à l'humanité. Il s'en prend à l'humanité, il s'en prend à la prunelle de ses yeux. Il s'en prend au peuple de Dieu aussi. De manière frontale, mais aussi de manière très souvent subtile, indirecte. Le diable, appelé encore par Jésus le père du mensonge, est à la fois l'adversaire de Dieu, l'adversaire de la création, de toute la création, l'adversaire de l'humanité, l'adversaire de la vérité. Par ses mensonges, le père du mensonge, par ses mensonges, il divise, il calomnie, il fait croire que, il culpabilise. Et cela se traduit par la zizanie dans les relations. Des conflits mal gérés. Un manque de pardon. Un manque d'amour. Des personnes blessées qui blessent à leur tour. Dans les maisonnées, dans la sphère professionnelle, dans l'église, dans la société, etc. Le diable envoie ses flèches empoisonnantes. Et nous comprenons que ces flèches suscitent et exacerbent la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil. Il vise la confusion dans nos pensées. Il vise la confusion dans nos raisonnements. Et en plus de perturber les individus eux-mêmes, il vise aussi, bien entendu, l'unité des couples, qu'il veut fracturer, qu'il veut diviser, pour fracturer les familles, pour fracturer la société, pour fracturer le monde. Et une fois touché notre talon d'Achille, notre zone de fragilité, eh bien notre fécondité est atrophiée. Nous aimons mal à ce moment-là. Nous ne sortons plus le sel de la salière. Nous ne pensons plus à aller sortir vers les autres pour éclairer, non pas parce que nous on est la lumière, mais parce qu'en fait, Jésus est lumière, il est dans notre vie, il nous rend lumière et nous appelle à aller côtoyer le monde des ténèbres. Et l'humanité qui ne porte pas l'armure conçue par Dieu, cette armure que Dieu laisse à notre portée, elle est précisée en Éphésiens 6, eh bien cette humanité reçoit ses flèches de l'adversaire sans forcément s'en rendre compte. Il ne s'en rend pas compte. Et donc il ne s'en protège pas. Si vous n'êtes pas convaincu des manières diverses et avariées d'agir du diable, il faut absolument que vous lisiez ce livre. Pour ceux qui me connaissent, il faut savoir que je dis très rarement il faut que vous. Je n'utilise pas ce terme. Mais là, il faut, si vous êtes chrétien, que vous lisiez impérativement ce livre. Je ne touche rien pour dire ça. Mais là-dedans, il est décrit d'une manière un peu romancée, dans un style tout à fait originale, c'est sous la forme de lettres, d'épîtres, hein, qui sont entre un oncle qui représente le démon et puis son neveu. Il est décrit comment l'adversaire agit dans nos vies, dans nos églises, dans nos relations, sans même parfois qu'on s'en rende compte. Il détourne notre attention. Il détourne notre attention pour que, plutôt que de passer notre temps à nous aimer les uns les autres, à être sel et lumière, à sortir, à louer Dieu, j'ai cru comprendre ce matin que nous avons été créés pour louer Dieu. Enfin, j'en suis convaincu, hein. Ça a été rappelé dans ces beaux chants. Je suis né pour t'adorer. En fait, il veut nous détourner pour qu'on ne vive plus ça. Et quand on ne vit plus ça, on ne vit plus ce pour quoi on a été créé. Et donc, on passe à côté de la vie, de la vraie vie. Vous savez ce que le grand réformateur Jean Calvin a dit par rapport à ce qui était, selon lui, la chose la plus importante dans la foi? Eh bien, je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. Il a dit que la chose la plus importante dans la foi, c'était la prière. Et l'adversaire de nos âmes le sait. Et il conspire avec l'esprit de ce monde et notre discipline personnelle parfois fragile pour nous éloigner de ce dialogue avec notre bon Père Céleste. Ce dialogue nécessaire, si bienfaisant avec Dieu. Et notre manque de discipline associé avec ces flèches font que nous trouvons plein de raisons pour ne pas dialoguer avec Dieu. On oublie, on ne prend pas le temps, on est accaparé par d'autres choses. On est accaparé par d'autres choses. Et on était parti pour prier, mais on était accaparé par d'autres choses. Et tout d'un coup, on n'a plus parlé à notre Dieu. Parce qu'on est parti sur d'autres choses. C'est très simple la manière dont le diable peut agir. Et il se sert de notre talon d'Achille, de nos manques de discipline personnelle, parce que nous ne comprenons pas que la discipline personnelle, c'est pour notre bien. On croit que la discipline, c'est pour nous embêter. C'est quoi ce truc des personnes âgées, là, c'était bon pour eux, mais pas pour nous. Et on passe à côté de la vie pour laquelle on a été créé. Bref, le diable, en attendant d'être totalement vaincu, eh bien, il rôde encore. Il cherche, ici ou là, là où il y aurait peu de résistance, peu de défiance pour pouvoir envoyer ses flèches. Sadiquement, il se délecte du bazar qu'il met dans le monde depuis l'entrée du péché et le chaos qui en a suivi. Plus il divise les personnes, et moins celles-ci se tournent vers Dieu, et plus il salive. Alors ses jours sont comptés. Et merci Seigneur. Alors en attendant que ces jours soient comptés, ces jours sont comptés, mais en attendant le retour du Seigneur Jésus, que dit Pierre? Eh bien, il nous dit, soyons sobres, soyez sobres, dit-il au verset 8, restez vigilants, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable. Soyez sobres. Quand il dit soyez sobres, il n'exhorte pas ses lecteurs à boire de l'eau de source. Il les invite à discipliner leurs pensées et leur corps. Il veut encourager ses destinataires et nous, aujourd'hui, ce matin, en particulier, il veut nous encourager à rester vigilants, attentifs. Je parlais d'autoroute tout à l'heure. Vous savez que beaucoup d'accidents de la route sont commis dans un rayon de combien de kilomètres autour de notre maison? Allez, qui dit mieux? J'ai entendu 5, 10, 15, 3, 2. Alors moi j'ai entendu 15, mais là ce matin j'entends 2, 3, en tout cas c'est dans un court rayon. C'est quoi ce rayon? Il correspond à quoi? Il correspond à la zone autour de ma maison que je connais le mieux, entre guillemets, donc je baisse ma garde. Je me surprends des fois quand je prie, quand je demande au Seigneur qu'il garde ma route, qu'il garde ma conduite, je le surprends à lui dire merci en arrivant dans la ville de Pierrelatte alors qu'il me reste encore 3 km à arriver. Je devrais lui dire merci au moment où j'arrive. Ça serait plus cohérent. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu nous dit, par Pierre, il nous dit veillons, veillons. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi, c'était l'année dernière, la dernière édition du Vendée Globe Challenge? Ça vous dit quelque chose? C'est une course en solitaire, en voile, hein, des bateaux. Je ne suis pas un spécialiste des bateaux, mais j'ai suivi cette course à travers le monde. Et pour ceux qui ont suivi la dernière épreuve de l'année dernière, vous avez probablement entendu parler de Boris. Boris, après 80 jours de mer en solitude, on peut jour et nuit, hein, on peut imaginer les efforts, l'épreuve, l'aventure que c'est, hein, et c'en est une, 45 000 km, eh bien Boris Herman a failli devenir le premier étranger à remporter le Vendée Globe Challenge. Sauf qu'il s'est endormi à 100 km de l'arrivée. Épuisé, il n'a pas vu venir un chalutier, je crois même qu'il était allemand, mais qu'importe. Et alors qu'il aurait pu finir premier, il n'a pas fini premier. J'ose pas imaginer dans quel état il s'est trouvé. Il n'a pas fini premier, il n'a pas fini deuxième, il n'a pas fini troisième, il s'est fait dépasser, il a quitté le podium, il a fini quatrième. Il a fini quatrième. Veillons et prions. Veillons et prions dans notre foi de tous les jours. Une autre manière de dire les choses, c'est résistons. C'est Pierre qui le dit. Résistons. Résistons. Et on peut se poser la question, comment résister à l'adversaire? Comment résistons à l'adversaire? Quelques pistes. Déjà, en étant conscient que l'adversaire existe, en reconnaissant son existence. Ça, c'est la première étape. Étant donné qu'il sévit encore en attendant sa défaite finale et qu'il continue de s'en prendre à nos talons d'Achille, eh bien, nous veillons et nous lui accordons une juste place. Quand je dis ça, bien sûr, nous ne croyons pas à ce qu'on appelle en théologie le dualisme. Le dualisme avec d'un côté Dieu et de l'autre côté le diable. Non, pas du tout. Il y a Dieu, le Dieu infiniment grand qui a créé les créatures dont les anges qui sont devenus hostiles à Dieu par jalousie, par orgueil, dont le diable est le chef. Mais il n'y a pas Dieu d'un côté et le diable de l'autre. C'est Dieu, il est tout seul dans sa cour. Le diable, il est dans une autre cour avec les créatures, et notamment les créatures déchues. Donc, nous lui accordons une juste place. Nous ne le voyons pas systématiquement partout pour justifier nos incohérences et nos péchés et notre fragilité humaine. Mais nous ne portons pas non plus volontairement des ornières pour éviter de reconnaître son influence. Dans certains milieux, on le voit partout, on parle de lui partout. Dans d'autres milieux, on n'en parle jamais. Milieu évangélique, hein, on n'en parle jamais, on n'en parle pas. Et pour une petite anecdote, je me souviens d'une fois, ça faisait 3 ans que j'étais dans l'équipe de responsable d'un groupe de jeunes et c'était la première fois qu'on faisait une rencontre où on a parlé du monde invisible, et donc on a parlé du diable. Première fois en 3 ans. Et à la fin, on débrief, et un animateur me dit « Ouais, Jean-Yves, c'était bien, mais faudra pas parler tout le temps du diable, hein !» C'était la première fois en 20 rencontres. Intéressant, hein? Comment on veut résister par rapport au diable si on nie qu'il agit? Il faut vraiment lire le livre de C.S. Lewis, hein. Je vous l'ai dit ça déjà ou pas? Donc résister, résister. Comment on va résister ? En se positionnant, en prenant position contre. En non seulement on veut ouvrir notre Bible, mais pas seulement pour cocher qu'on a lu tel chapitre. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est de communiquer avec l'auteur de la parole de Dieu, avec l'auteur de notre salut, en nous rappelant qu'il est le roi de notre vie. On veut cultiver cette relation avec lui. C'est une manière de nous positionner, c'est de chérir Dieu. On se positionne clairement. On l'a chanté tout à l'heure. Jésus, roi des rois, c'est le roi des rois, n'est-ce pas ? C'est le roi de notre vie. Et donc, on veut le dire, Seigneur Jésus, on est inspiré quand on se lève le matin, qu'on commence notre journée en nous disant, Jésus, je proclame, devant le monde invisible. Et là, je proclame, là, dans ma salle de bain, là, dans mon salon, dans ma crypte privée, je proclame que Jésus, tu es le roi des rois. Moi, je suis tellement honoré d'être l'un de tes sujets et je proclame ça. Je me positionne en disant ça. Je me positionne pour ma journée. Je vais pouvoir me positionner par rapport aux flèches que je vais entendre. Les mensonges qui ne me concernent pas. Je vais pouvoir me positionner. Non, ce mensonge, il ne me concerne pas. Moi, je suis un enfant du Dieu vivant, un fils du Dieu très haut. Et donc, ces mensonges, je ne les prends pas. Je me positionne. Comment lui résister encore ? Ben, en ne prenant pas trop de distance avec le troupeau, le reste du troupeau. Quelqu'un disait, je ne sais plus si c'était un philosophe ou pas, il disait « restez groupir hein ». Restez groupir pour nous encourager. C'est ça l'Église. C'est des frères et sœurs qui veulent s'encourager ensemble en étant pas très loin les uns des autres. Une fois, un frère africain m'a raconté que un lion n'osera pas s'attaquer à une gazelle qui est groupir. Ce qu'il va essayer de faire, c'est d'essayer de l'isoler. Et quand la gazelle est isolée, il va essayer là, de s'attaquer à elle. Et il va y arriver. Il aura souvent le dernier mot. Mais quand la gazelle, elle est groupée avec le reste du troupeau, le lion n'y va pas. Il n'est pas fou, hein, le lion. Il a une grande gueule, j'allais dire, excusez-moi l'expression, mais c'est vrai, il a une grande gueule. Mais quand il voit le troupeau ensemble, il n'arrivera pas à percer. Parce que les frères et sœurs sont groupés ensemble. Et ils se positionnent ensemble. Ils s'encouragent ensemble. Quand il y en a un qui est un peu fatigué, c'est notre réalité, il y en a à côté un autre qui dit « on va tenir, on est ensemble ». Et puis, bien sûr, en écoutant Jacques, tous les enfants savent que quand Jacques a dit quelque chose, il faut l'écouter, n'est-ce pas ? Les enfants, il y a des jeunes au fond là, vous savez ça hein ? Vous ne l'avez pas oublié, quand Jacques a dit quelque chose, il faut l'écouter. Et qu'est-ce qu'il a dit Jacques ? Jacques a dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. » À Dieu, hein ? Soumettez-vous donc à Dieu. « Mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. » On résiste, et le diable fuit. « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez votre cœur, homme partagé. Ayez conscience de votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Jacques a de bons conseils aussi pour nous, pour qu'on puisse résister à l'adversaire. Qu'on puisse s'appuyer sur ce Jésus qui est digne de promesses et qui ne va pas nous lâcher. Alors je vais conclure. Et je conclue avec cette anecdote dans mon ministère pasteur jeunesse que j'ai aussi en parallèle. J'accompagne depuis 2-3 ans une jeune femme qui a 30 ans. On se côtoie virtuellement. Appelons-la Lucie, par exemple, ce qui n'est pas son prénom. Et ça fait en fait plus de 15 ans que je la rencontre dans des événements jeunesse, cette jeune femme. Et c'est une warrior. Vous savez, ces femmes qui sont, probablement il y en a plein ici aussi, qui sont très douées, très dynamiques, entreprenantes, pleines d'idées, des sœurs qui sont costauds dans la foi, très motivants, formées dans un très bon institut biblique, mariées à un homme qui est formé dans un très bon institut public, et elle est tombée de haut avec un premier choc culturel suite à son mariage. Et puis il y a eu un deuxième choc culturel avec l'arrivée d'un premier puis un second enfant, et ça ne s'est pas tout à fait passé comme elle le souhaitait. Pas simple à aimer la nuit, pendant les insomnies des enfants. Et Lucilla Warrior m'a décrit ces moments nocturnes où, terrassée, angoissée, elle se retrouve allongée sur le sol de son salon à crier à Dieu du fond de son cœur, du fond de ses larmes, pour qu'il la sorte de cette situation dont elle ne voit pas l'issue de secours. Et après plusieurs rendez-vous virtuels, j'ose lui dire, elle est en train de se relever, et je lui dis, l'une des pensées que je pense que Dieu m'a mis sur le cœur et je veux te partager aujourd'hui, je prie pour que tu ne gâches pas ton épreuve. Je l'ai eu il y a quelques jours. Elle me disait, Jean, il faut vraiment que je te dise, je vais de mieux en mieux. Je relève la pente. Dieu me relève. Tout au long de son épître, Pierre a voulu encourager ses destinataires. Il leur dit, le monde est un monde déchu dans lequel nous sommes. Ce n'est pas un monde facile. Mais Jésus tient la main, il vous tient la main. Ne gâchez pas votre épreuve. L'épître de Pierre parle des épreuves. Beaucoup. Tout le long, on a l'impression. Ne gâchons pas notre épreuve. Nous sommes éprouvés en ce moment, peut-être. Ne gâchons pas notre épreuve. C.S. Lewis, c'est le même auteur dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ce n'est pas dans le même livre. Il parle de l'épreuve comme du mégaphone de Dieu. Tout d'un coup, ce n'est pas qu'il parle plus, hein, je ne crois pas. Tout d'un coup, notre cœur est mieux disposé pour écouter le Dieu qui se révèle. Et ça change tout. L'une des richesses de l'épreuve, et on peut la découvrir aussi dans cet épître, c'est que lorsque tu tiens fermement la main de Dieu, il te fait grandir. Il te fait grandir déjà en humilité, parce que tu comptes de moins en moins sur toi. Tu apprends à lâcher prise, tu apprends à te dire que j'ai besoin de dépendre de lui, et que si je ne dépends pas de lui, c'est compliqué. C'est pas sage. Et finalement, il conclut, et ça sera mes derniers mots. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. J'aimerais prier. Père éternel, tu nous aimes tellement. Tu veux nous poursuivre de ton amour, de ta tendresse, de ta sagesse, pour que nous puissions vivre cette vie ici-bas comme toi tu le veux, en collaboration avec toi, en amitié avec toi, en complicité avec toi, en duo avec les frères et sœurs. Là où nous sommes ce matin, Seigneur, parle-nous. Tu nous parles, donne-nous de t'écouter. Que veux-tu nous dire? Dispose nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions être comme ce jeune Samuel qui avait toute la sagesse de dire « Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute ».